Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et tu t'apprêtes à écouter en podcast un épisode du talk show de Pouscapé, Dis les termes. À chaque émission, un panel de professionnels va débattre sans langue de bois sur le rap. Allez, bonne écoute.
Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Pouscapé et t'es branché sur Dis les termes, le talk show rap de référence. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important qui fait parler partout, c'est les classiques. Alors, les classiques dans le rap, c'est quoi exactement? On va essayer de l'aborder avec mes chroniqueurs aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai un autre invité de marque cette semaine, Raphaël Dacruz.
Raphaël Dacruz, journaliste pour plusieurs médias, Move, ABC d'Arduçon, Bouscapé. Voilà.
Et aussi, je vois, même si vous avez changé de place, je le dis quand même, les Stabilo Boys.
Hein, ils voulaient la placer.
De base, ils étaient
assis. Il a réussi à la placer.
C'est mort. Stabilo Boys. D'ailleurs, commentez Stabilo Boys dans les commentaires. Ils étaient assis à côté, mais ils ont fui quand même.
C'est le boss, Chris, on te laisse.
Bon, vous allez bien, les gars?
Ça va être trop cool.
Tranquille. Présentez-vous, histoire que les gens impriment bien qui vous êtes.
Je t'appelle comment?
Nico, Bouscapé Colombien, journaliste animateur sur Bouscapé. Ça bouge cool. Pas.
Kirsch, fondateur du média Rapidit.
Ok.
Le chroniqueur sale, youtubeur, beatmaker.
Florian, fondateur de 55 Médias, une agence de conseil pour les rappeurs.
Bon, aujourd'hui, je sens que le débat va être très animé. Alors, les classiques dans le rap, c'est une notion qu'on entend depuis toujours, quasiment. Et c'est une notion qui fait beaucoup débattre. Avant de commencer, pour qu'on puisse parler de la même chose. Pour vous, c'est quoi un classique?
Pour moi, un classique, c'est quoi? C'est un morceau ou un projet qui a plus ou moins mis tout le monde d'accord, même si on n'arrive jamais à mettre d'accord tout le monde, et qui traverse les époques. Chaque année, on se dit, ouais, c'est vrai, ce morceau, on s'en souvient. Ouais, ce projet, on s'en souvient, c'est un classique, tu vois. Et quand on arrive tous à être un peu unanimes sur ce genre de... sur ce genre de single ou sur ce genre de projet, je pense qu'on peut se dire que c'est un classique. Et c'est aussi la portée qu'a eu ce morceau-là, tu vois. Parce que si on est quatre à se dire « Ah oui, ce morceau, c'est un classique », on ne peut pas le dire, classique. Tu vois. Mais si c'est un morceau qui a une grosse portée, on peut dire que c'est un classique. C'est ma vision de la...
Ok. Kirsch, pour toi, un classique.
Moi, je pense qu'un classique, c'est un titre fort ou un projet fort, mais plus un titre fort d'un artiste ou d'un groupe qui provoque des émotions, en fait. Je pense que la partie émotionnelle est importante, c'est-à-dire que des émotions fortes à son écoute et qu'on peut réécouter même des années après, qu'on se dise « ouais, bah ce titre-là, il me procure encore ces émotions-là ou de la nostalgie et que tu connaisses les paroles ». Et aussi, bien sûr, comme disait Colombien, le côté où une certaine masse valide le fait ou acquiesce le fait que ça soit un titre classique. Mais après, l'idée, c'est aussi de regarder chez la fanbase de l'artiste qui est ce qui est quel titre est considéré comme classique ou pas pour pouvoir se dire est-ce que c'est un classique ou pas. Parce que si tu prends la masse du public rap français, là, bah, ça va être compliqué. N'importe quel classique, si telle personne n'apprécie pas cet artiste-là, elle va pas forcément dire que c'est un classique, tu vois.
Ok, on va y revenir sur cette notion de public de l'artiste et public plus large. Et pour toi, Raphaël, c'est quoi un classique?
Bah, pour rebondir un peu sur ce qu'on dit déjà à cœur chez Nico, je pense qu'il y a aussi l'idée que ce soit un album ou un morceau qui a été impactant à un moment T, c'est-à-dire où il va y avoir une forme d'appropriation générationnelle, mais qu'il y a aussi cette forme de pérennité chez le public et chez les autres artistes aussi, en fait. Il y a des disques, des morceaux qui ont été des moments pivots, en fait, dans l'histoire d'un genre musical. Donc là dans le rap français, puisqu'on en parle. Et donc voilà, je pense que c'est aussi ça. C'est à quel moment, en fait, un morceau ou un disque a marqué un tournant, a influencé, en fait, plein d'autres artistes ensuite et a marqué le public pour donner, en fait, des nouvelles directions dans le genre musical, quoi.
D'accord. Et pour toi, chroniqueur?
Pareil, en fait, un peu le mélange de ce qui a été dit. Je pense que c'est quelque chose qui fait consensus ou presque consensus, qui traverse les époques, qui a potentiellement été aussi effectivement un point de bascule. Il y a un avant et un après cet album-là ou ce single-là. Et pour rejoindre aussi, enfin, Kirsch, il a déjà commencé à apporter quelques nuances, et je suis d'accord. Il y a aussi, sur la longévité, cet aspect émotionnel, nostalgique.
Florian, est-ce que tu as des choses à ajouter ?
Pas grand-chose, hein, puisque finalement, tout le monde l'a assez bien dit. Je pense qu'il y a un truc que Cash a commencé à évoquer, c'est qu'il y a la notion de classique, on va dire, au niveau du rap. Et tu peux avoir des classiques sur des choses un peu plus spécifiques. C'est un classique des années 2010, c'est pas forcément classique de toute l'année du rap, mais à cette période-là, il a compté. Ou c'est un classique d'un genre musical, ou dans la carrière d'un artiste. C'est-à-dire que tu peux avoir des scopes différents. Tu as le classique qui, vraiment, qui s'impose à tous, et tu as le classique dans la carrière d'un artiste, ou dans une période donnée. Peut-être sorti le morceau classique de l'été 2008, tu vois, et pas pour autant que ça devient le morceau classique du rap entier, quoi.
Si je peux me permettre de rebondir sur un truc que vient de dire Flo, je pense que cette notion de classique, elle est de plus en plus difficile, en fait, à préciser avec le temps. Parce que tu disais, finalement, c'est peu de temps, mais en fait, l'histoire du rap français, c'est 40 ans. Donc, en 40 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que c'était peut-être plus facile, effectivement, à une époque donnée, de se mettre d'accord sur ce qu'est un classique, ou en tout cas, le temps a permis de le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, et tu le disais aussi, Kersh, c'est que les artistes sont tellement différents, il y a tellement de nuances de rap possibles, on parle de rap, mais en fait, il y a des raps, qu'effectivement, on est obligé, d'une certaine manière, de relativiser, parce qu'on avait beaucoup cette idée de quelque chose de très absolu, finalement, sur l'idée de consensus, d'unanimité. Mais je pense que c'est de plus en plus difficile, à mesure que le temps avance, des années 90, des années 2000, jusqu'aux années 2010 et 2020, d'avoir cette notion, en fait, finalement, de consensus et d'unanimité qu'il faut parfois aussi relativer à des sous-genres, à des sensibilités, etc., au fur et à mesure qu'on avance, quoi.
Il y a une notion que tu as introduite qui est, à mon avis, importante, que vous n'avez pas forcément ajoutée dans votre définition classique, c'est la notion de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, un projet qui sort, par exemple, vendredi, cette semaine, un projet sort, est-ce qu'on peut définir au moment où il sort, que c'est un classique, où il y a la notion de temps qui doit s'appliquer à ce projet?
Moi, je pense que la notion de temps est fondamentale, en fait. C'est voir si le titre ou l'album vieillit bien. Quand on écoute un projet, il y a aussi le fait que c'est l'engouement du moment, c'est que peut-être tout le monde en parle, etc. Le projet buzz ou l'artiste buzz en ce moment. Donc, finalement, tu as toutes les louanges et les acclamations. Ah, c'est le meilleur projet de truc, de machin, nanan. Ça va marquer le rap. Quelques années après, peut-être, il n'y a plus le même impact, peut-être, quand tu écoutes ce titre-là. Tu vois ce que je veux dire. Donc, ce qui fait que je pense que la notion d'année est fondamentale. En fait, c'est même la première des notions. C'est-à-dire que, est-ce que des années après, ce titre-là ou cet album-là ne bouge pas. Dans le rap français comme dans le rap US, d'ailleurs, je pense aussi. Est-ce que ça ne bouge pas ? Faire la nuance entre un hit et un classique. Ouais. Parce qu'il y a des artistes qui ont de gros hits, mais ce ne sont pas forcément leurs classiques. Par exemple, il y a des morceaux qui sont peut-être plus connus dans la carrière d'un artiste X, mais il y a certains titres qui sont beaucoup plus forts, en fait, qui ont beaucoup plus procuré d'émotion. C'est là où on parle de classique.
Tu parlais de la notion de hit, et je pense que c'est important peut-être de le différencier. Aujourd'hui, un morceau que tu as en tête qui n'a pas forcément eu un succès commercial incroyable, mais par contre, c'est aujourd'hui un classique qui est réécouté. Est-ce que toi, tu as des exemples comme ça ?
Je te dirais peut-être dans les années 2000... T'as peut-être du 93 hardcore de Tandem, t'as du Ghettoïs de Salif, t'as du Desporucci arrêté, t'as du Mafia Kinfry pour ceux, tu vois.
Qui a eu un bon succès commercial quand même.
C'est quand même des morceaux qui ont marché commercialement.
C'est pour ça que je nuance.
C'est pas les plus gros succès.
Mais c'est vrai que ça n'a pas été un hit dans le sens où c'est pas passé en radio.
Après, t'as Kerry James deux issues, t'as Rof regretté.
Et donc en gros, tu disais, ça peut être un classique, mais un album, un artiste peut avoir fait un morceau plus gros. Si on prend un des derniers classiques où tout le monde est plus ou moins d'accord, on va dire, c'est Caris, avec Or Noir, dont le morceau principal était Zo, en vrai. Et effectivement, si tu regardes, Zo a eu moins de succès que Chouin. Clairement.
Bien sûr.
C'est l'un n'enlève pas à l'autre, tu vois. C'est juste qu'à un moment, c'est pas ton classique, pas forcément ton morceau le plus connu.
Et d'où ce que disait Raphaël, c'est aussi au moment où arrive Zo, en fait, c'est un titre qui est un game changer. En fait, ouais.
C'est l'impact.
Voilà, ouais, c'est l'impact, clairement. Tu vois ce que je veux dire. Il y a eu un avant et un après. Et en plus, ça crée toute une école aussi. Tu vois, ça te crée toute une école de rappeurs trap avec un univers assez sombre, punchline, etc. Donc, ça a marqué, je pense, la carrière de Caris, mais aussi le rap français, aujourd'hui, on peut le dire.
Pour reprendre cette notion de temps, pour revenir encore plus loin en arrière, si on prend une année comme 2001, par exemple, on a eu un énorme tube en rap français qui était « Je voulais être Suisse et Phil ». C'était un énorme hit, le truc passait constamment à la radio, rappelle, etc. Et la même année, par exemple, on a un album comme « Tous ensemble, chacun pour soi » de Salif. Aujourd'hui, énormément d'artistes ou des gens qui sont fans de rap français vont dire « Cet album, c'est un classique ». À cette époque-là, ce n'est pas un grand succès commercial.
Ouais.
Il n'y a d'ailleurs même pas de clip. Enfin, tu vois, il n'y a pas cette espèce d'impact commercial du hit, justement, dont on parlait, que va avoir, par exemple, un joulet de Suisse et Phil, tu vois. Donc, il y a vraiment, je pense, aussi cette notion de à quel moment il y a cette pérennité, comment ça dure dans le temps, comment ça traverse l'histoire, tu vois, pour qu'en fait, aujourd'hui encore, des gens en parlent. Cette idée d'incarner quelque chose générationnellement, je pense que pour des gens du début des années 2000, un truc comme Suisse et Phil, ça a été très important, ils s'en souviennent encore. Mais en fait, quand tu regardes sur le temps de l'histoire, ah oui, tu vois, okay. Sur le temps de l'histoire, il y a des choses qui n'ont pas eu des grands succès commerciaux, et t'as cité plusieurs morceaux d'ailleurs, tu vois, qui au final reviennent beaucoup plus dans l'esprit, tu vois, de beaucoup, de, beaucoup de fans de rap français. Quoi.
En fait, je voulais, ça n'a pas été important, justement. Ouais, ça nous a accompagné.
Tu vois,
c'est un morceau qui a énormément tourné, mais ça n'a pas été un morceau important.
Et tu parlais d'incarnation, justement, c'est intéressant. Est-ce que les artistes, lorsqu'ils font un morceau, est-ce qu'ils réalisent qu'ils ont un classique? Parce que je pense, je donne un petit peu mon avis ici, je pense pas nécessairement que les artistes sont conscients du classique qu'ils sont en train de faire. Tu donnais l'exemple tout à l'heure de Caris avec Zo. Il explique que le morceau, il a dû écrire en 10 minutes ou quelque chose comme ça. Il a pas forcément conscience de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion-là?
En vrai, je pense que pour la plupart des artistes, je pense qu'à l'instant T, ils doivent pas se rendre compte qu'ils sont en train d'écrire un classique. Je pense qu'ils savent qu'ils ont un beau projet, ils ont un beau morceau, mais ils se disent pas forcément là on a un classique du rap français. Tu vois, ça, je pense que de toute façon, ça restera toujours le public qui est seul décisionnaire de faire ou non de ton projet ou de ton morceau un classique. Parce que si toi, t'estimes que c'est un classique, mais il sort et personne l'écoute, au final, ça sera un classique pour ton équipe. Tu vois.
Quand t'as une conscience trop aiguisée de toi-même, tu sais, c'est comme les sportifs en fait.
Ouais.
Quand ils sont dans leur zone, tu vois, des Michael Jordan, des Zidane, des Federer, enfin, tu vois, les grands athlètes, quand ils sont dans leur zone, au moment où ils sont en train d'accomplir un truc incroyable, je pense qu'ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes, ils sont concentrés sur leur truc. Je pense que les artistes, c'est exactement la même chose, tu vois.
C'est dans l'insouciance aussi du geste, exactement. Le fait de ne pas calculer, tu vois.
Et en fait, en général, tu essaies toujours de faire le mieux que tu peux.
C'est ça.
Voilà, un artiste, en général, il fait ce qu'il fait de mieux, et des fois, ce qui sort, c'est bien, des fois, ce qui sort, c'est moins bien, des fois, ce qui sort, ça devient un classique. Mais si tu lui demandes si lui voudrait faire que des classiques, bien sûr, il va essayer d'en faire, tu vois. Mais en vrai, je pense que t'as fait le mieux que possible.
Ouais, il propose, bien
sûr. Et puis, des fois, c'est bon, des fois, ça l'est moins.
Tu voulais ajouter quelque chose?
En fait, c'est qu'on en revient toujours à cette notion de temps, tu vois. Parce que, au final, même si t'as donné le meilleur de toi-même, à l'instant T où ton truc il sort, tu sauras jamais, en fait, si c'est un classique tout de suite. Tu vois, tu dois attendre. Tu vois, Rof, je pense que quand il fait regretter, etc., il se dit pas quand le sortant, ça va être un classique, tu vois. Même si, il y a des artistes qui le sentent quand ils sont en train d'écrire quelque chose de gros. Tu vois, j'avais vu une interview récemment, en plus, chez Combini, où il parle de ses classiques. Et il dit qu'au moment où il est en train d'écrire regretter, ils sont dans le noir, il est 4 heures du matin, tout le monde est ému dans le studio, etc. Tu vois, donc je pense qu'il y a un truc qui se passe, tu vois, mais tu ne sais pas comment le public
pour
va l'accueillir.
Je pense que quand même, quoi qu'il arrive, il a cherché à faire quelque chose de grand. Je pense qu'il travaillait pour faire un morceau puissant.
Quelque chose de fort, mais de là.
Mais par exemple, t'écoutes retour aux pyramides des X-Men, je ne suis pas persuadé qu'ils étaient en train de chercher de faire quelque chose de grand.
Grave d'accord avec toi, pour revenir à ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a plein d'autres morceaux de, par exemple de Rof qui l'a fait, et je pense que sur le moment où il dit que ça va être un classique, ça l'a pas été, et juste il les cite pas, parce que sûrement dans son interview il aurait pu dire oui, il y a ce morceau là aussi, on l'a fait, il était 6h du mat, il était noir aussi, et finalement c'est l'histoire qui fait qu'après tu
vois, c'est comment le public se l'approprie,
bien sûr. C'est qu'après tu refais l'histoire
les années,
ah oui, j'avoue, ce jour là il se passe un truc particulier, parce que il y a un autre jour il se passe un truc particulier,
mais
le morceau juste il
c'est vrai.
Mais c'est intéressant, on donne des noms, on a donné Regretter de Rof, le morceau des X-Men. Mais aujourd'hui, en fait, t'as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure sur la notion du public de l'artiste et le public plus large. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des morceaux, par exemple, Regretter ou le morceau des X-Men, est-ce que c'est, pour tout le public rap, ça doit être reconnu comme étant un classique?
C'est compliqué comme question.
C'est impossible, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, au fur et à mesure que le rap a avancé, a gagné en popularité, la démographie du public rap, elle a changé, en fait. Enfin, c'est pas qu'elle a changé, c'est ouverte. D'une part, c'est générationnel, et d'autre part, elle s'est très ouverte, en fait. Je sais pas, dans les années 80, dans les années 90, je vais dire un truc, c'est de l'intuition. T'avais peut-être 30% de passionnés et 70% d'auditeurs passifs. Tu vois, des gens qui écoutaient ce qui passe à la radio sur Skyrock, qui regardaient le boulevard des clips sur M6, qui sont attachés au rap de cette époque-là. D'ailleurs, tu vois, dans les années 2000, au moment où le rap commence à être un peu moins impactant commercialement, il y a ce mouvement du le rap se tait mieux avant. Parce que je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissait plus dans ces nouvelles formes de rap, tu vois. Je pense qu'il y avait 70% d'auditeurs actifs et 30% d'auditeurs passifs, pardon, et 30% d'auditeurs actifs qui, eux, tu vois, se sont appropriés ces trucs en disant « ça, c'est des classiques, en fait, tu vois ». Et effectivement, qui continuent aujourd'hui à porter ce discours en disant « c'est important de connaître les classiques, etc. ». Au fur et à mesure que l'histoire du rap français avançait, et notamment aujourd'hui à l'heure du streaming, tu vas peut-être avoir 15% d'auditeurs actifs qui, comme nous, en fait, se posent ce genre de questions, tu vois. Donc,
tu penses qu'il y a moins d'auditeurs actifs qui donnent leur avis?
C'est en termes de proportion, en fait. Oui. Je pense que c'est juste
en plus. Okay, d'accord.
Aujourd'hui, le rap français est tellement populaire.
Mainstreamisé, en fait.
On est forcément aussi moins nombreux. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi plus compliqué, en fait, de porter cette espèce de réflexion, de se dire, c'est quoi un classique? Surtout qu'encore une fois, je veux dire, aujourd'hui, un auditeur A, un auditeur B, ils se rencontrent, ils peuvent se dire, j'écoute du rap aussi, et pas s'entendre sur les artistes sur lesquels ils sont sur leur classique en plus.
Tu peux même limite ne pas écouter
un chroniqueur et ensuite
les artistes de l'autre.
C'est limite, aujourd'hui, tu dis, t'écoutes du rap, frère, moi, je sais pas ce que t'écoutes. Ça veut rien dire. Comme à l'époque, j'écoute du rock, c'est pareil, moi, je suis pas beaucoup plus avancé, là.
Ça rejoint ce que disait Raphaël, tu vois, mais le public a vraiment changé et ils n'ont pas forcément envie de savoir qu'est-ce qu'un classique, qu'est-ce que représente Rof pour le rap français aussi, tu vois, parce qu'aujourd'hui, du fait que Rof est moins présent sur le devant de la scène et que les gens estiment que ça marche moins, etc., bah pour eux, c'est pas possible qu'il ait fait des classiques auparavant. Et aussi, c'est un truc de sonorité, de comment ça rappe, comment ça pose, tu vois.
Le fameux C'est qui IAM, par exemple.
Ouais, c'est qui IAM de Koba qui est énorme.
Je pense que ce truc, tu vois, qui est devenu un mème, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes auditeurs, en fait. Ils en ont rien à foutre. Et plus on avance, plus il va y avoir des Rof, ou je sais pas, ou les Bill, ou tu vois, des gens qui, pour nous, ça semble évident, tu vois, qu'ils
ont. Moi, je pense que. Après, c'est pas pour faire un hors-sujet, mais c'est un peu la même idée que. On y arrive.
On y arrive.
On fait les appels de phare.
Il va dire, ouais, moi, la muscu, je pousse à 40. Ouais, c'était chelou.
C'est comme dans le foot aujourd'hui. C'est-à-dire que quoi, les légendes d'antan, t'as des gens qui kiffent le foot, qui ont peut-être 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils s'en foutent de savoir qui était Ronaldo R9.
Ouais, mais justement, est-ce que ça pose.
Mais pourtant, il a apporté sa pierre à l'édifice à l'histoire du foot. Même si les jeunes d'aujourd'hui, certains sont moins intéressés par ce qui a été fait avant par des artistes comme Rof ou autres, etc. À un moment donné, l'idée, ce n'est pas de convaincre tout le monde. L'idée, c'est qu'à un moment donné, il y a eu ça. Après, tu prends, ça t'intéresse, ça t'intéresse pas, mais c'est été fait.
J'ai une question pour Kersh, parce que c'est un truc que moi, je vois sur les réseaux sociaux, et les gens disent que c'est aussi le travail des médias, le travail des anciens artistes, d'éduquer cette nouvelle génération. Est-ce que, enfin, j'ai pas la réponse là dans les médias, mais quel est votre regard là-dessus en vrai?
Moi, je pense qu'en tout cas, en tant que représentant de médias, il y a une part où tu es obligé de faire en sorte aussi de transmettre à cette nouvelle génération, soit via des formats, soit via des posts, soit via d'autres moyens, ce qui s'est fait avant. Genre, même ne serait-ce que de faire ce type de débat aussi, ça permet de donner des références, peut-être que certains jeunes qui ne connaissent pas, et c'est pas une honte de ne pas connaître, même nous, on ne connaissait pas à un moment donné, ils vont se dire, on va aller voir. Donc, bien sûr qu'il y a cette logique-là, mais il y a aussi la volonté propre de l'individu à vouloir être intéressé par ce qui s'est fait avant. Tu vois, en fait, à un moment donné, en fait.
S'il peut y trouver aujourd'hui.
Voilà, bien
s'il
sûr.
S'il peut y trouver, c'est plus facile.
Avec Internet, tu peux trouver. Mais
c'est pour ça que je parlais d'auditeurs actifs et d'auditeurs passifs.
Ouais, c'est ça, vraiment, en fait. Et moi, c'est pour ça que je parlais aussi du parler avec le foot. C'est ce truc de. Ça les intéresse tout simplement, peut-être pas.
Bien sûr.
Et je sais pas si c'est grave, mais ça peut être problématique à un certain niveau. En tout cas, moi, je pense
En quoi ça peut être problématique potentiellement?
Justement, il y a deux profils. Est-ce que t'es un fan invétéré de rap, que t'aimes ça à fond et que t'as envie de savoir tout ce qui s'est fait par rapport à ce mouvement-là depuis 30, 40 ans, par exemple dans le rap français? Oui, si c'est le cas, tu vas aller t'intéresser. Mais si tu fais que passer, en fait, aujourd'hui t'écoutes du rap, demain t'écoutes autre chose, et que t'es pas un réel passionné. Mais en fait, sur la masse, en vérité, il y a très peu de passionnés.
Oui, mais
peu
sur les passionnés, si les passionnés en question ne s'intéressent pas à l'histoire, est-ce qu'à un moment donné, ça va
un
pas.
Un passionné
par définition,
ça
t'intéresse.
Attention, intéresse. On ne veut pas dire qu'il va aimer.
Si tu regardes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple, un gars qui. J'ai vu des tweets très intéressants sur des petits qui écoutent du rap aujourd'hui. Et qui ont très peu de connaissances sur le rap français début des années 2000. Par contre, ils savent tout ce qui est sorti entre 2012 et aujourd'hui. Est-ce que justement les classiques, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que les classiques, justement, ça peut pas être un moyen aussi pour les jeunes qui écoutent le rap aujourd'hui de pouvoir se dire, ok, voilà ce qui s'est passé dans le rap dans l'époque. Et c'est important d'écouter ce projet pour savoir ce qui s'est passé. Comme par exemple, on peut avoir sur la musique classique, les gens qui écoutent de la musique classique, Mozart, Beethoven,
etc. Tu vois, Chris,
c'est des références.
Juste un truc, Raphaël, c'est juste un truc, c'est que entre le fait qu'ils sachent ce qui s'est passé, les jeunes d'aujourd'hui qui sachent ce qui s'est passé, et qu'ils aiment, c'est pas la même chose.
Oui.
Le fait, en fait, limite, pour moi, c'est à titre informatif. Tu sais qu'il s'est passé ça, qu'il y a eu tel projet. Après, si t'aimes pas, comme il dit Nico, en termes de sonorité, en termes de flow, en termes de texte, franchement, je peux comprendre. Mais c'est bien de savoir. Si tu dis passionné, attention.
Ouais.
Si t'es juste un auditeur de rap qui s'en fout un peu, bah, on va rien te demander en soi. Tu vois, genre, t'écoutes le rap, etc. Mais si tu te dis passionné, T'as besoin d'avoir certaines bases, on va dire. Et tu peux pas tout connaître aussi.
Ça me dérange un peu ce discours, tu vois. C'est un peu comme dans le cinéma, où t'as des gens qui vont dire j'aime le cinéma, mais est-ce que t'as vu ça, ça et ça? Sauf qu'une fois que t'as vu ça, ça et ça, tu vas tomber sur un mec beaucoup plus pointu que toi.
C'est pour ça que je te dis, il faut pas tout savoir.
Est-ce que t'as vu la nouvelle scène française des années 60? Est-ce que t'as vu
non,
ça?
Et finalement, non, ça s'arrête jamais, en fait. C'est pour ça que je te dis, tu peux pas tout savoir. Tu peux pas tout savoir. Mais est-ce que t'as la volonté?
La curiosité.
Voilà, c'est cette volonté de t'intéresser.
Il y a des consommateurs, tu vois. Je pense, sur le côté passionné que tu voyais parfois chez certains jeunes sur les réseaux sociaux, tu vois. Jeune, putain, j'ai 35 ans, je parle de jeunes.
C'est pareil pour moi.
On est dans les années 2000, soyons clairs, je suis beaucoup plus vieux que tu vois. Qui ont ce truc de passionné. Comme moi, je pouvais être passionné, tu vois, quand j'avais leur âge, tu vois. Il y a ce côté, parfois aussi, de suivisme, en fait, tu vois, parce que tu fais un peu comme tout le monde, tu suis la mode, donc tu consommes, en fait. Sauf que parmi ces jeunes-là, et c'est aussi effectivement peut-être à nous, tu vois, de faire ce travail-là, c'est ce que j'essaie de faire, par exemple, chez Move avec Du Béton Nuage, le documentaire sur le rap français, c'est de dire, OK, ça t'intéresse, bah, peut-être que ça peut t'intéresser de savoir d'où vient, en fait, l'histoire de ce genre musical, et quels classiques, justement, quels albums fondateurs tu peux aller écouter. Donc je pense que il y a un besoin de transmission que certains vont pouvoir aller découvrir en se disant, ça, c'est des classiques, ça, c'est des classiques. Et voilà, quoi.
Pour rebondir sur ce que disait Flo, tu vois, je trouve que le cinéma et le rap, c'est deux choses différentes, tu vois. C'est des... Comment dire? C'est la culture de la rue qui a été revendiquée à un moment donné, même si aujourd'hui, elle est moins revendiquée. Il y a des mecs qui ont rappé des choses, même si aujourd'hui, on n'est plus trop axé sur les textes, même s'il y a des artistes qui le font encore très bien, tu vois. Il y a des mecs qui ont raconté des choses, qui ont raconté un vécu, qui ont raconté des problèmes, qui sont peut-être encore présents aujourd'hui, tu vois. Et juste le fait de réviser ces leçons sur juste ça, tu vois, genre, révise juste ta leçon sur ça, après, on va pas t'interroger plus que ça, tu vois, mais au moins que tu saches d'où ça vient, qui a raconté quoi, qui a fait quoi, parce que je trouve que le cinéma, c'est big, tu vois, genre,
c'est très large.
Là, on parle d'un truc,
C'est comme si on disait la musique, tous, en fait, tu vois c'est, manière,
pour la plupart, on vit tous la même chose, tu vois, on a tous vécu la même chose, donc c'est important pour moi de savoir qui a raconté quoi, à quel moment, et qu'on fasse le point aujourd'hui où est-ce qu'on en est, parce que c'est aussi ça, le rap, tu vois, c'est raconter des choses, c'est pas que des hits et que s'ambiancer, même si aujourd'hui, ça a un peu changé. Ça va avec notre temps, ça va avec notre génération. Moi, je l'accepte, tu vois, et je le consomme. Mais quand j'écoute le rap d'avant, j'aimerais bien aussi que, tu vois, j'en parle des fois avec des petits autour de moi qui s'en foutent complètement de rock. Oui,
parce que tu peux pas obliger les gens à être curieux. C'est ça. En fait, tu peux les inciter. Tu peux même faire tous les contenus que tu veux. Après, il faut essayer de faire en sorte que ça soit le plus accrocheur possible. Mais même parmi les passionnés, je pense, qui se butent au rap actuellement, tu peux malgré tout... Ils sont passionnés, mais tu peux quand même peut-être pas forcément les obliger à être curieux, à venir découvrir. Surtout qu'on est en plus dans la culture de l'instant. Et le mec, il se dit, vas-y, moi, je m'en bats les couilles de ce qui s'est passé.
C'est ce qui me dérange avec justement ce genre de débat de est-ce que les gens devraient connaître leur classique, c'est que finalement, t'arrives dans une posture de vous faites pas votre travail, vous devriez vous renseigner si vous dire que t'aimes le rap. Mais si le mec, il a envie d'écouter que ce qui sort, et qu'un jour, peut-être au bout de 3-4 ans, à force d'écouter ce qui sort, il dit, tiens, à un moment, lui, il a fait une référence à ça, où les interviews servent beaucoup pour ça. Tu vois ce que tu disais, classique auprès des autres artistes, tu vois. Je pense que quand t'as un mec comme Kobalade qui cite les anciens rappeurs de son quartier,
La Comera, par exemple,
ça a donné envie à des mecs d'aller écouter beaucoup plus que le gars qui dit ah ben non mais tu connais même pas La Comera, tu sais pas qui est Ayam.
Après,
je pense que c'est ce truc-là de dire il y a un côté un peu chiant, mais je comprends, mais il y a un côté un peu chiant. En fait, quand le mec entre guillemets la culture dit aux autres ah t'as pas regardé ça, c'est toujours un peu
c'est pas forcément dire ok t'as pas écouté ça, mais est-ce que dans la culture rap, globalement, c'est important d'avoir les mêmes références sur le temps, en se disant, tiens, ce projet a eu un impact, ce projet a eu un impact, etc.
En fait, je comprends grave le chroniqueur quand il dit que voilà, on peut pas aller forcer, etc. Mais par contre, je pense qu'il y a une notion de respect à avoir. Qui s'est perdu, tu vois, okay. Qui se perd, parce que aujourd'hui, ok, que tu n'aies pas écouté un tel, c'est une chose, tu vois, mais que tu l'allumes et que tu le fasses passer
sur les réseaux
du quartier, alors que le mec, si tu t'es renseigné, tu sais qui c'est et ce qu'il représente, là, je pense que...
C'est autre chose.
Sur les réseaux, il y a ce truc.
En fait, et moi, c'est plus ça qui me dérange. Tu vois, le fait qu'on soit là, qu'on tire sur des mecs, vas-y, s'il n'est pas bon aujourd'hui, c'est...
Oui, mais là, je pense que c'est particulier parce que tu parles de... En fait, on a du mal, quand t'as un jeune auditeur, t'as du mal à faire le distinguo entre ce qu'est devenu la personne et ce qu'il a fait à l'époque où t'étais pas là. Donc typiquement, en vrai, si on prend l'exemple concret de qui on parle, quand on parle à un mec comme Rof, qui est maintenant énormément critiqué par les jeunes qui ne comprennent pas forcément l'impact qu'il a pu avoir, donc du coup, ce qui est compliqué, c'est que les gens n'arrivent pas à distinguer ce qu'il a pu faire de la musique qu'il fait maintenant.
Est-ce que c'est si compliqué que ça de distinguer? En fait, ce que dit Nico, c'est que...
Moi, je suis d'accord avec lui.
Un peu ce que tu disais, c'est qu'en fait, à un moment donné, Rof ou d'autres, bah, que tu veuilles ou non, tu vois, ils ont fait partie des fondations d'un certain mouvement, ouais. Tu vois, à une certaine époque. Et le jeune qui arrive et qui, justement, manque de respect sur les réseaux ou quoi, ok. En fait, l'idée, c'est qu'on lui demande pas tellement son avis si l'artiste est bon aujourd'hui ou pas, mais c'est juste qu'en fait, il a fait partie de l'historique du mouvement. Après, si le débat, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, je l'écouterais, si le jeune est est-ce qu'il est bon pour moi aujourd'hui, est-ce que je vais écouter cet artiste aujourd'hui, est-ce qu'il est bon aujourd'hui, etc. Ça, c'est un autre débat.
Non, mais est-ce que les leaders d'opinion, par exemple, nous, Bouscapé, on peut pas dire à un moment donné, tiens, bah, Rof, il a sorti un classique à ce moment-là, comme ça, même si bah, le jeune en question écoute pas forcément l'artiste, au moins, il y a. Non, un leader d'opinion qui a dit quelque chose,
mais ça vaut pas adhésion, tu vois.
Bah
au moins,
c'est ça. En fait, même si nous, enfin, tous les gens du rap se mettent à le dire, même si demain on tweet tous ensemble, Rof, nanana.
On parle beaucoup de Rof dans cette émission.
Ouais, parce que là, on a pris lui, tu vois, mais peu importe. Ouais. Justement, on prend Salif.
T'as Mac Taylor aussi,
Salif, Nesbill.
Qui ont fait partie.
NTM, si tu vas même plus loin, tu vois. Est-ce que toi, Nico, si c'est pas indiscret, t'as quel âge?
Moi, j'ai 27.
27 ans. Donc, est-ce que toi, par exemple, t'as déjà écouté les premiers albums NTM?
Bah justement, voilà. Tu vois, ça, c'est
et qui sont des classiques, tu vois.
Voilà, c'est le truc où moi, j'ai écouté parce que j'ai fait mes leçons, tu vois. Genre, je dois l'avoir écouté, je dois savoir à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'ils ont rappé. Mais moi, je suis de la génération d'après. Tu vois, je suis celle Kery James, Rof, Lafouine, B2O. Tu vois, je suis plus de cette période-là. Et c'est vraiment ces sons-là que moi, j'ai consommé de fou. Donc, si tu me dis, ouais, on va aller s'écouter l'album de NTM, d'IAM, etc. Je trouve ça un peu relou, tu vois. Mais je respecte parce que je sais que sans eux, il n'y a peut-être pas la suite.
Attention, parce que là, ce que l'on parle, c'est qu'on parle d'artistes qui ont continué, entre guillemets, la carrière est un peu moins belle. C'est-à-dire que si aujourd'hui Joe Star est encore actif et faisait des albums ridicules, bah, peut-être que tu dirais, vas-y, si tu vas à Joe Star. Parce que là, il y a ce truc de rester, parce que finalement, ils se sont arrêtés avant que ça baisse, tu vois. Et ça qui est compliqué. C'est-à-dire que tous les mecs qui se sont arrêtés, par exemple, personne ne se fout de la gueule de Salif aujourd'hui. Parce qu'en fait, il a arrêté, il a laissé sa place telle qu'elle est, et le mec qui le découvre, il découvre qu'à travers les anciens qui disent « Ouais, c'est un classique ce qu'il faisait avant ». Le problème, c'est plus de dire à un mec « C'est un classique ce gars-là », et quand lui, il écoute ce qu'il fait actuellement, il dit « En fait, je comprends
pas ». Je vois ce que tu veux dire.
En fait,
que comme il donne pas la matière…
Lui, il regarde ce qu'il fait aujourd'hui.
Aujourd'hui, dans l'ère actuelle.
Mais en même temps, comment veux-tu donner la matière dans l'ère actuelle, sachant qu'en fait, je ne vais pas dire que c'est plus ton époque, mais c'est presque ça.
Ou pas, Rilska,
bien sûr. Certains y arrivent, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si ton évolution est en phase avec ce que le public veut, tant mieux. Mais si ton évolution n'est peut-être plus en phase avec ce que le public veut ou désire, en tout cas, t'as plus les mêmes chiffres, etc., ça veut pas dire qu'on va barrer d'un trait ce que t'as fait. En fait,
je suis d'accord avec Nico, mais c'est le problème. Faut pas faire une sorte de cancel culture où tu vas regarder ce qui a été fait avant par rapport à ce qui a été fait aujourd'hui. Ok, par exemple, tu vois, un mec comme Cynic, il a fait des morceaux qu'on touchait à l'époque, tu peux regarder ce qu'il fait maintenant en disant, ouais, vas-y, à travers les pauses, d'autres rappeurs qui clashent, tu vas dire, vas-y, finalement, c'est Tuba tout ce qu'il a fait. Et il faut pas rentrer là-dedans. Mais j'ai l'impression
que c'est la culture de l'instant.
Ouais, rentre pas tant là-dedans que ça.
Moi, je pense pas.
Ça arrive. La culture de l'instant est quand même là. Sur les mecs qui sont plus actifs, t'as pas de mecs qui vont dire, ok, finalement, c'est pas un classique avec le temps. Ça existe pas parce que finalement, tu l'écoutes pas, tu t'en fous, tu vois. Mais c'est vrai que les artistes qui avaient des classiques qui sortent encore des morceaux, bah, t'as un côté où ça peut entacher l'image de ce qu'ils ont fait avant auprès d'un jeune public qui finalement connaissent que le maintenant, qui leur parle pas. Ça veut pas dire que c'est mauvais ce qu'ils font maintenant.
Oui, bien sûr.
C'est juste que ce qu'ils font maintenant, ça, c'est après, pas trop le win du moment.
Mais
quoi.
Au final, on leur demande pas de valider ce qu'ils font maintenant ou même ce qu'ils faisaient avant. Parce que forcément, ils ont pas l'affect, ils ont pas grandi avec, l'époque a changé. Mais c'est juste de se dire, bon, ça a existé, je connais. Je sais que ça a été important à un moment.
Ça a marqué l'époque.
Ça a marqué l'époque, mais après, à la limite, on demande à personne de kiffer, tu vois.
Ouais. C'est ça, en fait. Ouais. Pour moi, c'est juste un truc de renseigne-toi juste.
Pour ça qu'on disait que les classiques, c'était générationnel aussi.
Ouais, bien sûr. Ça.
Parce que même s'ils les écoutent pour la culture, ça sera jamais leur classique. Mais le problème, c'est que du coup, ça vient un peu contredire la définition qu'on en a eue, puisqu'on disait que c'est des albums ou des morceaux qui traversent les époques. Mais en vrai... Là, force est de constater que ça traverse pas.
En fait, c'est ça. En fait, c'est que je pense que ça traverse les époques pour
ceux qui étaient là,
qui l'avons écouté. Parce qu'en fait, tu l'écoutes et ça te renvoie à un moment.
Ah oui, bien sûr.
Franchement, je suis pas sûr, tu vois, parce que je me suis refait l'album Paris sous les bombes d'NTM, tu vois, avec tout cet amour que j'ai, tu vois, pour cette musique et cette érudition entre guillemets, tu vois. Et tu vois, j'arrive à en prendre du plaisir à l'écouter, alors que c'est pas le moment où je commence à écouter du rap quand ça sort, tu vois. Et pourtant, je lui reconnais des qualités. J'ai pris du plaisir, par exemple, à l'écouter, tu vois. Alors que moi, je commence à écouter du rap à la fin des années 90 avec la FF, tu vois, avec le 113, etc. C'est déjà plus la même musique, tu vois, entre 94 et 95 ouais. pardon, et 99, c'est déjà plus la
mais,
musique.
Mais tu
et
l'as pourtant, écouté tu vois, au début de ton aventure de rap. Par exemple, tu vois, moi, quand j'ai commencé à écouter du rap, j'ai même âge que Nico, quasiment, un an de plus. Et quand j'ai commencé à écouter du rap, j'ai rattrapé, tu vois, les premiers trucs de Kill James, etc. Et pour moi, ça restera des classiques parce que j'ai l'affect, parce que je les ai découverts à ce moment-là. Mais je peux comprendre qu'un mec qui vient d'arriver, tu lui dis Kill James, ça a fait l'unanimité à un moment. Je pense que s'il écoute, il va dire, OK, je peux respecter que ça a fait l'unanimité, mais il dit, mais c'est dur.
Quand nous, on l'écoute, enfin, nous, tu sais, toute personne qui considère un projet comme classique, ça le renvoie à une époque, ça le renvoie à un souvenir. Qui fait que pour lui, peut-être il est, tu vois, il a écouté peut-être l'impasse de Kerry James à un moment donné où il était en prison au commissariat paf, et pour lui c'est un classique, tu vois. Et je pense que il y a aussi de ça, tu vois. Tout à l'heure au tout début, voilà, tu vois, Thug Life, tu vois, tout à l'heure Kersh il disait que c'était un truc aussi de l'émotion, ce qu'on a ressenti. Toi t'as peut-être ressenti ça. Votre génération a peut-être ressenti ça, mais en fait, c'est que les mecs d'après, ça représente rien pour eux, tu vois.
Pour le citer une dernière fois, enfin, peut-être pas une dernière fois, mais en mode de Rof, lorsqu'il est sorti à l'époque avec dans la complice Street Lourd, je me rappelle que ça a créé un raz-de-marée. Tout le monde l'écoutait, ce
son.
Tout le
monde disait en mode.
Le mot est resté aussi dans notre manière de parler encore aujourd'hui, etc. Donc peut-être que l'impact aussi du morceau ne se fait pas que sur l'écoute du morceau même, mais c'est même des expressions, des choses comme ça.
Mais après, quand tu regardes par rapport justement quand on disait l'âge, etc., quand tu regardes aujourd'hui les artistes d'aujourd'hui, il y en a encore, je pense, qui pondent des classiques, tu vois.
Moi, c'était la prochaine question.
La transition.
Aujourd'hui,
la transition.
Parfait.
Moi, par exemple, un igno, La Vie Qu'On Mène, je pense que c'est un classique de sa discographie. Et justement, ça va.
De sa discographie.
C'est ça. Justement, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai fait exprès de préciser. C'est qu'à un moment donné.
Parce que c'est pas juste l'un de ses morceaux les plus importants. Non, parce que classique de sa discographie.
Mais justement, je vais te donner un autre exemple. Tu vois, aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'au final, trouver des classiques qui font l'unanimité du public rap français, et on représente pas tout le public rap français, c'est de plus en plus dur, tellement il y a de styles de rap. Donc c'est pour ça que j'ai dit, un igno, La Vie Qu'On Mène, c'est un classique de sa discographie. Et en plus, ça n'engage que moi. Par exemple, je vais te rajouter un Jul, J'oublie Tout. Pour moi, c'est un classique de sa discographie aussi. Tu vois?
Et en album.
Et pour
en
album, La Menace Fantôme.
Une partie du public, en tout cas.
Okay.
La Menace Fantôme.
Toi, tu considères comme,
La Menace Fantôme.
De Freeze.
Pour moi, classique, même si c'est encore un peu tôt, mais on s'en parlait tout à l'heure en off avec Raphaël. Pour moi, c'est game changer. Mm-hmm. Tu vois, genre, il se passe quelque chose. Tu sens que même les gens qui consomment pas de Freeze Corleone, qui sont dans le rap, etc., ils disent putain, c'est sérieux, en fait. Tu vois.
Les gens qui se sont mis à rapper comme lui après.
Voilà, qui se sont mis à rapper comme lui. Il fait un truc qui se faisait plus trop, c'est qu'il vient, il nous propose un projet qui fait disque de platine sans passer en radio, même si Rap Catéchisme, ça passe vite fait au début, mais ça passe pas en radio, il n'y a pas de Zumba, entre guillemets. Tu vois, c'est du rap pur et dur avec un nouveau style. Tu vois, donc je pense que là, on parle de peut-être trop tôt pour dire classique, mais potentiel classique.
Pour cette génération,
je pense. Game changer, en tout cas, tu vois.
Est-ce qu'on n'a pas un recul finalement sur comment ça fonctionne? Par exemple, je trouve que l'exemple de Freeze Corleone avec La Menace Fantôme est très bon. C'est qu'on voit qu'il y a un impact à tous les niveaux, aussi bien en termes de style de rap. Donc les gens commencent à reprendre sa manière de rapper. Il y a aussi l'impact médiatique. Son style musical qui détonne par rapport aux autres artistes. Est-ce qu'on n'a pas déjà un recul pour se dire, OK, ce projet-là, c'est le projet d'une génération qui va être considéré au bout d'un moment comme un classique parce que les gens vont continuer à
des photos. Moi, je pense que c'est une question de recul.
On a déjà le recul sur ce que ça a généré et ce que ça influence déjà, en fait.
Ah, il y a des fortes
chances. Quand Raphaël disait que maintenant, ça rappe comme lui, oui, c'est indéniable.
La réalité.
Et comme Booba, quand il a ramené son flow à l'époque de Mauvais Oeil et surtout à l'époque de Temps Mort, après, tout le monde s'est mis à rapper comme lui aussi. Donc, tout le monde, façon de parler, mais en tout cas, ça a imprimé une manière de kicker quand même, plus ou moins, surtout plus. Palpable, tu vois, dans le rap.
Tu m'as avancé sur ma question et du coup, j'aimerais savoir, toi, pour toi, c'est quoi quel artiste a récemment fait un classique? Récemment, donc, je dirais les 5 dernières années.
Ouais, j'ai envie de prendre, tu vois, l'ère du streaming qui s'ouvre un peu déjà vers 2015.
Je pense que pour définir un classique, je pense qu'il faut même, avant ça, différencier hit, banger, classique. Si on prend un hit, qui a tout cassé, est-ce que c'est un classique?
Ah, c'est pas un classique, on l'a
c'est
dit.
Pour ça que... Puisqu'on parle aussi de morceaux, je pense que Le Monde ou Rien de PNL, ça reste comme un classique du rap français, en fait.
Non, mais
même si c'est encore un groupe qui divise, je pense, en termes esthétiques, il y a plein d'auditeurs de rap français qui doivent pas se reconnaître en PNL. Moi, quand PNL arrive, par exemple, j'ai du mal à adhérer, par exemple, mais vu l'impact qu'a eu le morceau, vu la pérennité qu'il laisse, vu en plus, la carrière que ça a ouvert aussi pour PNL, qui est encore aujourd'hui. Il faut rappeler que Deux Frères, l'an dernier, c'était encore parmi les albums de rap qui se vendaient le plus en France. Donc, je pense que y a PNL, Le Monde ou Rien, ça ouvre quelque chose. Je pense que A7 d'SCH, ça peut se défendre comme potentiellement un classique de ces dernières années.
Pour toi, ça ne fait pas l'unanimité, A7 ? Parce que tu dis se défendre.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'unanimité en vrai ?
C'est ça le problème. Mais je reviens sur ce que je disais en tout cas.
Est-ce que l'impact,
c'est que le public est tellement différent.
Parce
le public est tellement segmenté aujourd'hui. Il y a tellement de rap. RAPS, j'ai presque envie de mettre un S à la fin, tu vois.
Le consensus, il est quasiment impossible aujourd'hui. À l'époque, on écoutait quasiment tous la même chose.
Exactement.
Dans les années, fin des années 90, début des années 2000, si tu étais un auditeur de rap, en vrai, on écoutait tous les mêmes albums. Mais aujourd'hui, plus personne n'écoute la même chose.
Feu de Nekfeu, par exemple.
Ouais.
Tu vois, vu l'impact que ça a eu aussi, vu le nombre de mecs qui se sont mis à rapper comme Nekfeu, vu c'est la ça, carrière que ça a ouvert, c'est possible que ce soit... Et pourtant, c'est même pas l'album que je préfère de Nekfeu. Je pense que Cyborg, c'est mieux, par exemple.
Mais je pense qu'il a mal vieilli. Et je pense que ce ne sera pas un classique parce qu'il a mal vieilli.
C'est possible.
Je pense que c'est très subjectif.
Non, mais aujourd'hui, il doit considérer que ça a mal vieilli. Je pense que Feu, tu demandes à Nekfeu, est-ce qu'aujourd'hui
alors, il faut un classique ?
Il s'adresse directement à Nekfeu.
Nekfeu, dis-nous ton avis en commentaire.
Non, mais c'est vrai, je pense que Nekfeu, aujourd'hui, je pense que si tu demandes de choisir entre ces albums, tu choisiras Cyborg.
Ah oui, non, mais moi je pense que Cyborg, c'est un bien meilleur album. Mais tu vois l'espèce d'impact générationnel qu'a eu Feu. Bon,
oui, mais après, tu vois avec le recul. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que Feu a eu plus d'impact quand c'est arrivé. Mais c'est avec le recul. Tout à l'heure, dans vos définitions nombreuses et variées, le point commun avec tout le monde, c'est quelque chose qui tient dans le temps.
Tu as raison.
Et je pense que ça n'a pas tenu dans le temps.
Et l'influence aussi.
Oui, mais pas que l'influence, parce que sinon, dans ce cas-là, le premier album de MHD est un classique. Parce qu'il y a eu un impact énorme, mais je pense pas que ce soit cité comme un classique.
Je pense qu'il y a peut-être
Parce que c'est un côté afro, mais est-ce que finalement, ça peut pas se.
C'est un truc récent, un morceau classique, bande organisée en vrai. Pour moi, c'est un classique.
Pour moi, c'est un hit.
Pour moi, c'est un hit.
C'est clairement un hit. Mais du coup, on verra.
C'est peut-être les années qui nous diront gros hit ou mais tu vois, c'est devenu un classique.
Moi, tu vois,
c'est le temps. Encore une fois, c'est peut-être le temps qui nous manque là. Ça sort.
Et un hit, ça peut pas être un classique selon vous.
Comment En fait, c'est que moi, mon problème, il est là.
C'est un hit, c'est un classique.
Typiquement, pour moi, ce type de morceau, je donne mon avis rapidement, c'est sur le temps s'il est encore joué dans les soirées, parce qu'on se rend compte ensemble.
Parce que là, Nico, il a peut-être pas tort. Ça a tellement marqué aussi le rap français que
c'est mon
gars. Il y a eu un avant et un après. Après, bon, d'organiser
ça. Ouais.
Il faut dire la vérité, tu vois.
Potentiellement.
De vrai.
Mais encore une fois, c'est le temps qui va nous le dire aussi.
C'est ça.
Le temps qui va nous le dire.
Il y a pas
de beaucoup de gens qui essaient de reproduire aussi la formule maintenant. Ouais. Donc,
Mais c'est vrai, finalement. Est-ce que ça va peut-être un classique parce que ça va être international finalement.
Mais encore une fois, ça revient à ce qu'on disait sur la segmentation du public et sur est-ce qu'un hit, un succès commercial, ça peut atteindre ce truc de classique incontesté. J'ai repensé à l'année 2010. En l'espace d'un mois, on a eu deux albums qui sont L'école des points vitaux, la section d'assaut, et Conviction suicidaire de Despo Routier. Tu peux pas faire plus différent, je pense, comme album, tu vois, dans l'intention.
C'est des opposés.
Pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'auditeurs de rap français, vu les portes que ça a ouvert, cet album-là, tu vois, L'école des points vitaux, qui pourrait dire que c'est un classique. Ce qui n'est pas nécessairement mon cas, tu vois, mais je pense que.
Pour moi, Conviction suicidaire, c'est un classique.
Pour moi, Conviction suicidaire, c'est un classique. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais combien de gens connaissent Conviction suicidaire
Très peu de cette génération.
Tu vois, que L'école des points vitaux. Donc, tu vois, il y a aussi ce truc, encore une fois, de segmentation du public qui rend. Et on revient à cette question-là, tu vois. Encore plus difficile, là, tu vois, la
Le jugement, en fait. Bien sûr.
Discographie, normalement, chaque artiste a un classique dans sa discographie.
En fait, c'est ça, parce que si du coup, je prends Dinos,
chaque artiste dans sa discographie, il a un classique à hauteur de sa discographie. Je pense que, par exemple, Train de vie de Kobaladé, pour moi, c'est classique de la discographie de Kobaladé. Après, est-ce que c'est considéré comme un classique
En fait, c'est ça, c'est que chacun a son classique.
Chacun
dans
a son classique.
Alors,
c'est-à-dire que
on est plus sur le consensus dont parlait le chroniqueur tout à l'heure.
Ah oui.
Parce que je pense que le combat, c'est d'avoir dans ton type de rap. Dans ton type d'auditeur.
Ah oui, donc c'est plus dans ta discographie, ton type de rap.
Ça, c'est si tu fais un classique de ta discographie, normalement chacun en a un, tu vois.
En fait, tu sous-divises le rap là. En fait.
Par contre, tu peux avoir une autre division qui est dans les gens qui. Si dans les gens qui peuvent potentiellement écouter ce type de musique, t'as une majorité qui ont kiffé, c'est que t'as fait un classique dans le rap français pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu parlais de SCH, je pense que A7, je pense que tous ceux qui écoutent du rap un peu dans les tonalités de SCH vont dire que A7 est un classique. Donc si les mecs écoutent pas du tout de rap comme SCH et disent que c'est pas un classique, pour moi ça compte pas.
Le plus important, c'est que
parmi ceux qui écoutent ce type de rap, tout le monde dit que c'est un classique, donc t'es un classique.
Parmi ceux qui peuvent être potentiellement touchés par ce type de musique-là, ok.
Parmi les consommateurs, parce qu'il y a des non-consommateurs absolus. Il y a des mecs qui écoutent un certain type de rap.
Ils sont réfractaires.
Par exemple, un mec qui est fan de... Imaginons quelqu'un qui écoute que genre Aya, Weshden et tout ce qui va avec. Bah, potentiellement, qui disent « Ouais, j'ai pas aimé l'album de SCH ».
Mais là, on est plus sur du rap, là.
Ouais. Justement pour toi.
dans le rap, tu peux avoir ce genre de truc. C'est-à-dire que je pense qu'un mec qui est... tu vois, par exemple, un mec qui écoute que de la plug, qui ne comprennent pas ce qu'a fait SCH, bah, c'est logique en vrai, non consommateur absolu.
Mais justement pour toi, est-ce que dans les dernières années, est-ce que tu as un classique? Moi, je veux voir dans l'ère du streaming ce que vous pensez.
Je pense que tu vois, dans les classiques qu'on n'a pas encore cités, parce que je pense qu'effectivement, Or Noir, c'est le cas, LMF, pourquoi pas. Moi, je parle plutôt en projet, parce que c'est facile, je pense, d'avoir un titre classique, tu vois. Je pense que Corleone...
Putain, j'allais le dire.
Je pense que Corleone de la crime, c'est un classique. Parce que je pense que tout le monde l'a validé quand c'est sorti, que les gens le valident encore, et que finalement, il a réussi à concilier, tu vois, succès public et succès critique. Donc, je pense que Corleone, au même titre que A7, parce que pour moi, je considère que A7 est un classique, c'est un classique. Et je trouve que, étonnamment, PNL, ils n'ont pas d'album... Ils ont eu un impact plus fort, mais ils n'ont pas d'album qui a eu un impact solo de ce type-là.
On
en parle dans quelques années.
Ah, ouais, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que PNL, t'as trois albums qui sont forts, entre guillemets, tu vois. Que la force d'un Corleone ou d'un A7, c'est que c'était tellement fort qu'on n'a fait que de renvoyer leurs auteurs de ces albums-là, donc La Crime et SCH, à cet album. C'est-à-dire que SCH, on n'a fait que lui parler. En vrai, j'ai dit un peu. On lui parlait quand même beaucoup, beaucoup de A7.
Ouais. Après, il le disait lui-même en plus. Il disait que c'était trop lourd à porter.
Et je pense que La Crime aussi, à un moment, on lui parlait, même s'il y avait d'autres morceaux d'albums qui étaient bons, mais il y a eu un truc où ça a vraiment fait autorité. J'ai l'impression que PNL, si on doit choisir, il n'y a pas un album dans sa discographie qui s'impose comme étant le meilleur album de PNL et c'est lui qui doit choisir comme
classique. C'est vrai que c'est chacun a son album
favori. Chacun son album préféré.
Mais du coup, à cause de ça, il n'y a pas d'album classique pour toi, vu que le public...
Il y a des titres classiques.
Déjà, si tu fais des titres classiques, c'est déjà quelque chose.
Ouais.
Après, album classique, je pense que c'est le surplus. Tu vois,
c'est intéressant ce que tu dis.
Album classique, c'est encore plus compliqué que les titres classiques.
Je pense que là, on est arrivé à un truc intéressant. C'est vraiment finalement, et on ne l'avait pas suffisamment dit au départ dans la définition au début de l'émission, mais finalement, je pense que c'est cette histoire de point de bascule ou de game changer. Si pour répondre à la question que tu as posée à Flo, franchement, je pense que au-delà de mes goûts, les derniers, pour moi, effectivement, là, on les a quasiment tous cités. Ça va être Feu, parce qu'effectivement, derrière, on a eu plein de mini Nekfeu qui sont arrivés. C'est le Monde Chico.
Qui, par exemple, dans les mini?
Non, mais j'ai même pas d'idée comme ça, mais après, moi, c'est parce que c'est beaucoup de... Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas eu vraiment de...
C'est pas des...
Il n'y a pas un artiste qui est sorti vraiment
de Nekfeu qui pète.
Je vois ce que tu veux dire.
Mais moi qui fais beaucoup de live
sur Instagram,
des artistes amateurs.
Ouais, c'est abusé.
Il n'y a pas un live.
Les freestylers de soirée, ils ont pas un
Nekfeu. Ouais, de fou.
Ils ont pas peur.
D'accord. Et en vrai, il y a ça. Pour moi, il y a le monde Chico, parce que pareil, cet album-là, pour moi, il y a eu un point de bascule. La Menace Fantôme, parce que derrière, là, on est parti sur encore d'autres sonorités, un autre univers. Une main lave l'autre, parce que derrière, il y a eu encore maintenant un nouvel avènement de quelque chose d'un peu plus kické, technique, etc. C'est des albums, dernièrement, ils ne font pas l'unanimité. Donc, par rapport à notre définition de départ, c'est un peu biaisé. Mais par contre, je pense qu'il faudrait de mauvaise foi pour dire qu'il ne s'est pas passé un truc avec ces albums-là,
d'accord,
qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
J'ai pas entendu citer du Damso ou du Booba sur les derniers albums.
Néronémésis, pour moi, c'est un classique. Néronémésis, pour moi, c'est un classique. Je le mets même dans le top 3 des projets de Booba.
Ah
mais,
oui
ouais,
moi aussi.
Ah ouais, t'aimes.
Je m'emporte. Non, mais je voulais rajouter aussi Jul. C'est pas mon projet préféré, mais je dirais Dans Ma Paranoïa, en vrai, parce que... il se passe un truc.
Ouais,
tu vois.
Enfin,
il sort Dans Ma Paranoïa. Au début, on se dit, mais c'est qui
quoi, ce
mec? Tu vois, c'est qui ce fou? Et au final, tout ce qui se passe derrière, c'est incroyable. Tu vois. Aujourd'hui, il y a des artistes, quand ils chantent, on peut dire, ah bah, il fait du Jul. En fait,
c'est dingue, ça.
Mais du coup, on peut le rajouter dans la liste que je donne.
Voilà, dans ce que tu disais.
On revient sur l'impact, parce que finalement, moi, par exemple, j'écoute assez peu de Jul, mais je peux reconnaître que Jul a eu un impact.
Mais
un impact de fou sur la française.
Il ne faut pas qu'on mélange des albums qui ont amené une nouvelle musicalité avec des albums classiques. Je pense que par exemple, Jul, je suis pas sûr que, enfin, même si c'est un bête d'album, je suis pas sûr que Dans Ma Paranoïa ce soit son plus gros album.
Non, c'est My World,
classique. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est un classique pourtant? Parce que dans ces cas-là, tu vois, un MHD qui pour le coup, c'est celui qui a un des plus gros game changer en vrai. Si tu regardes, l'impact de MHD pour moi, il est plus gros en termes de changement dans les musicalités que celui de Kaaris. Est plus gros que celui de
Kaaris.
Non,
tout le monde s'est mis à faire son afro-trap. C'était abusé.
Mais tout le monde s'est mis à faire son
afro-trap. Sauf que Kaaris, il arrive dans un truc où c'était. C'est lui qui l'a cristallisé. C'est lui qui a pris le brassard de ça. Mais c'était déjà diffus, ça existait déjà. Pareil, par exemple, quand tu regardes la drill, c'est comme si aujourd'hui tu disais l'impact de la drill, c'est Gazo. Ça a été le porte-étendard de ça, mais c'est pas lui qui l'a amené. Ça existait déjà, ça venait de plein d'influences différentes que MHD, pour le coup, il a créé quelque chose de A à Z qu'on peut considérer comme bien ou mauvais, mais il a créé quelque chose, il s'est approprié le nom, et c'est pour ça que je pense que l'impact de MHD est plus important. Et pour autant, son premier album, même s'il était vachement bien, Je pense, il n'est pas cité comme un classique.
Ok, alors peut-être que le projet en lui-même n'est pas cité comme un classique, mais est-ce que les Afro-Trap ne peuvent pas être cités comme des classiques? Parce que c'est des morceaux que toute une génération connaisse. Alors c'est peut-être que l'impact est là, plutôt que dans le projet. Ça va plus être les singles, finalement.
Est-ce que le classique, c'est pas si tu dis à quelqu'un tu dois réécouter qu'un seul album avant de mourir, t'écoutes quoi? Ou qu'un seul morceau avant de mourir, t'écoutes quoi? Je suis pas persuadé qu'il y ait des gens qui vont dire je vais écouter Afro-Trap.
J'avoue, c'est cru quand même.
Tu vois, mais genre.
Ça se trouve, le gars veut faire la fête avant de mourir.
En fait, t'as dit, la difficulté du classique, c'est si tu dois en garder qu'un. Oui, je pense qu'il a les Afro-Trap, mais qu'est-ce qui distingue Afro-Trap d'un hit ou d'un classique? Je sais pas, tu vois. Moi, je pense que. Est-ce que dans 10 ans, on réécoutera Afro-Trap? Peut-être.
Je pense.
Peut-être.
Moi, je pense que oui.
Je pense que les Afro-Trap, là, ils tourneront toujours. Ouais, mais... Vous en pensez quoi, vous?
En fait, c'est que je ne sais pas si ça... Si déjà, aujourd'hui, ça tourne encore, tu vois. Avant qu'ils sortent de prison et qu'ils balancent le 11, je crois, c'est King Kong.
Ouais.
Je ne sais pas si on réécoutait encore, tu vois. Moi, mais ça nous arrive de le passer par-ci, par-là, mais je ne sais
que,
pas
qu'est-ce
si...
Est-ce que, Nico, est-ce que déjà de base, c'était, comme il disait Florent, si on sous-catégorise, si est-ce que déjà de base, c'était friand de ce type de rap?
Ouais.
Est-ce que Colombien, c'est que son assaut, genre, est-ce que Casquette à l'envers, pour toi, c'est
autre chose, c'est plus la même musique, déjà.
Non, mais est-ce que... Pour moi, est-ce que tu considères ça comme un classique? Maintenant, est-ce que là, pour le coup, pour moi, Casquette à l'envers, en vrai, c'est plus ou moins... On peut comparer à ce qu'a été les Afro-Trap, tu vois, en termes d'impact, en termes de trucs qui sont quand même joyeux, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, et en vrai, la Sécession d'Assaut, ils ont entraîné toute une vague Watibé derrière,
c'est un gros hit,
c'est de la musique comme eux.
Ouais, mais...
Donc, est-ce que maintenant, parce qu'on a plus de recul sur ça, est-ce que 12 ans après, on peut considérer ça comme un classique, ou est-ce que finalement, comme il n'y a pas ce côté émotionnel, tu sais, comme il n'y a pas J'sais ce côté pas. Le fond.
Mais est-ce que j'ai envie de te dire, moi je pense que c'est un gros hit, mais j'ai envie de te dire, et peut-être que nous on va dire non, mais que d'autres diraient oui, parce qu'eux ils l'ont pris avec... différemment. Tu vois ce que j'en vois? Parce qu'en fait, est-ce qu'on est les bonnes personnes pour répondre à cette question? Je ne suis même pas sûr. Mais en tout cas, pour moi, c'est un gros hit.
En fait, c'est que ça dépend aussi de ton entourage. En fait, ça dépend aussi de ton entourage, de plein de choses. Tu vois, en fait, c'est. Tu vois, par exemple, un son, quand tu vas le mettre avec tes proches, est-ce que tout le monde va s'ambiancer dessus?
Et du coup, je pense que
et
c'est
si
ça.
Ton entourage, il est un peu plus jeune, il dit ouais, mais c'est quoi ce son?
Non, mais là, de toute façon, plus on avance, et plus je me rends compte que la définition de base, en fait.
Parce que du coup, vos définitions de base, c'était qu'elle mettait tout le monde d'accord. Je pense que demain, tu mets.
C'est intéressant,
tu mets
bien sûr.
Non, moi, je dis pas qu'elle met tout le monde d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment, comme t'as dit, chez les gens qui sont déjà friands de ce type de musique et qui l'ont écouté à un moment
donné. Après, il y a des classiques qui arrivent à.
Chez qui ça
arrive à sortir de ça, tu vois.
Ça crée une certaine nostalgie.
Ouais, mais c'est trois éléments. Un impact aussi sur l'industrie. Est-ce qu'il n'y a pas un impact? Parce que finalement.
Mais comme il dit aussi, il faut faire attention avec le côté impact, parce qu'il y a des choses qui ont eu de l'impact, mais qui ne sont pas forcément des classiques aussi.
Mmh. En fait, ouais, mais il n'y a pas des singles classiques.
Après,
c'est très délicat.
C'est très délicat.
Ça rejoint ce qu'on s'est dit au fur et à mesure du truc, c'est. Au final, les classiques, c'est générationnel, en vrai.
Et personnel.
Et personnel aussi, parce que ça rejoint un truc...
C'est personnel,
où...
c'est plus rien.
Ah, mais voilà, c'est ça aussi.
C'est plus rien, en fait. Si c'est personnel et en même temps générationnel, c'est que ça a plus de sens.
Tu peux réussir à avoir un consensus si t'as de la chance. Je pense qu'ici, on écoute un peu tous la même musique. On a réussi à se mettre d'accord sur certains noms.
Genre Air Max de Ninho et Rimka, c'est un classique.
Tu l'as placé. Bravo.
Moi, je pense personnellement que Freestyle PSG de Niska, c'est un classique.
Est-ce
que
Charon?
Ouais.
Pour moi, c'est un classique de
Niska. Que
non, non, arrête de toi, à chaque fois, il se protège derrière ça.
Non, c'est vrai.
C'est un classique de Niska en 2000. Non, mais est-ce que c'est un classique global?
Ouais.
Du rap français?
Ouais.
C'est genre ça un truc. Dit,
encore une fois, c'est les années 2010.
J'avoue, c'est dur.
C'est ça. C'est un classique de la trappe.
Voilà. Entre 2010 et 2020, bien sûr que oui.
Ouais, tu vois, du coup, on est obligé
mais
de.
T'es obligé
de faire un entonnoir en fait.
Mais pourquoi, Florent? Parce que même le classique que tu vas dire que t'écoutais quand t'étais petit peu. Tu vas dire ça un petit peu aujourd'hui, tu vas dire comme c'est Tuba.
T'as oublié de catégoriser
les gens. En fait, ça revient à ce que dit Chroniqueur depuis tout à l'heure, c'est que finalement, on s'est trompé dès le début. Les classiques.
On va sortir de ça. Allez, on n'aura pas de réponse. Mais c'est intéressant.
Si tu le veux, non.
Au fur et à mesure, on se rend compte que finalement, le consensus, il arrive quasiment jamais.
Attendez,
à part à l'époque où effectivement, on écoutait quasiment tous la même chose, donc c'est bon. Mais sorti de cette époque-là, à partir du moment où il y a eu différentes chapelles, ça y est, ça commence à être compliqué. Ensuite, on dit c'est un truc qui traverse le temps. Mais là, on est déjà en train de se rendre compte de mais ça a déjà mal vieilli, ça a mal vieilli. Et ce que tu disais tout à l'heure, Nico, quand tu disais aujourd'hui tu fais écouter du rough à des petits, ils disent mais de toute façon en termes de sonorité ça leur parle pas du tout. Donc c'est bien la preuve que ça traverse pas le temps. Et donc finalement il y a beaucoup d'éléments qu'on a cités au début qui tiennent au final qui tiennent pas la route. Je crois
en fait c'est
de la branlette en fait.
Je pense que dans un premier temps on a souvent tendance à se dire ouais un classique c'est ça. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'avec la discussion qu'on a, en fait, on répond à chacun de nos points en se disant
finalement.
Ouais, en fait, à travers
d'où l'échange.
En fait, nanana. Donc,
Je sais pas.
Mais sinon, bah, juste.
À partir du moment où il est subjectif, il pourra pas faire. Tu, en fait,
c'est un peu subjectif.
Tu peux pas faire l'unanimité.
En même temps, c'est de l'art, c'est de la culture, donc c'est normal aussi. Tu vois, je pense qu'il n'y a jamais de réponse absolue. C'est juste que je pense qu'à un moment donné, il y a quand même des albums, des œuvres qui marquent leur époque, qui arrivent à synthétiser, personnaliser, incarner quelque chose, en fait. Et c'est finalement ceux qu'on a cités comme potentiellement des classiques, même sur ces dernières années, je pense que c'est ça, finalement.
C'est ça. À un moment donné, il y a vraiment eu un avant-après.
C'est une représentation, à un moment T, de ce qu'est le rap français et de ce qu'a été le rap français et de l'impact que ça a pu avoir. Donc, finalement, même si on s'est un peu dédié pendant la dernière partie de cette émission, je pense qu'on arrive quand même à retomber sur nos pieds sur ce truc. À un moment donné, c'est aussi des moments tournants, en fait, du rap français, en fait. Et les disques qu'on a cités... SCH, Alpha One, PNL, etc. Mine de rien, ça reste des classiques.
Je pense que tu viens de résumer plus ou moins la chose. Je vais juste finir sur une chose, parce que vous ne m'avez pas répondu. Freestyle, PSG, Niska, classique ou pas?
Mais
non, mais lui, il n'a pas de PSG. Il n'a pas de PSG, il va pas te dire non, oui.
Écoute, pour parler français, là.
Ouais, je vais te dire oui, en vrai.
Ah ouais?
Ouais, je vais te dire oui, classique.
Okay. Et vous, les gars? Vous en pensez quoi?
Moi, je pense que c'est un classique dans le créneau. Ça chébrant d'autres gens à faire la même chose, mais pas tout le rap. Tu vois.
C'est même arrivé dans FIFA. Donc, en vrai, on parle d'un jeu mondial où en Chine, ils vont jouer à FIFA. Il y a Mathieu qui va faire comme ça. Tu vois, mais c'est vrai.
C'est vraiment juste un branchement d'une chapelle. Alors que quand on parlait de la menace fantôme, tu vois, aujourd'hui, tu vois Flemme qui se retrouve sur plein d'albums d'artistes très différents. Donc, les gens, ils veulent retrouver un peu ce grain-là aussi. Tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est plus large. C'est un impact plus large.
Ok, Florian ?
Ouais, et sinon, pour revenir à ce qu'on dit, c'est que peut-être qu'à l'époque, tu peux faire l'unanimité, mais si aujourd'hui, tu arrives à mettre 10% des gens d'accord et qu'il y a un album qui en fait 30% des gens d'accord, peut-être que c'est la nouvelle unanimité, tu vois. Elle est juste relative.
Ok.
Chris, pour toi, Air Max, c'est un classique ou pas ?
Ah juste, ouais,
réponds à cette question,
oui,
s'il te
plaît. Non.
Non ? Sérieux ?
Non.
Non ? Le chroniqueur, toi aussi ?
Pour moi, c'est un hit. C'est un gros hit.
C'est un hit.
Mais c'est pas un classique aussi ? Du tout.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec
eux. C'est un hit.
Non, moi, je pense dans les années, on va voir. Moi,
vas-y,
je pense que ça.
On se rend compte que c'est un classique, je pense. Ça, on a commencé, quoi.
Non,
classique.
Classique, je pense.
Ouais, c'est cool.
Vas-y.
Bon, bah, dans les commentaires, donnez-nous votre définition du classique. On a hâte de voir ce que vous avez à nous dire. Et n'oubliez pas de liker aussi. Et petit rappel, tous les épisodes de Deal et Termes sont disponibles en podcast, donc sur toutes les plateformes de streaming. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de regarder sur YouTube, vous pouvez nous retrouver directement sur les plateformes de streaming. Et en plus de ça, on est présent un jour avant l'épisode sur YouTube. Donc, c'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à la prochaine. Cheers.
Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de Deal et Termes présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast Deal et Termes sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Pour que le podcast remonte dans les classements, tu peux aussi nous laisser une bonne note. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.